Europe 1, il est 7h.
J'attends le train et le train n'est toujours pas là. Là, je viens de voir à l'instant qu'il est supprimé. C'est pas une bonne nouvelle, là. C'est fatigant. C'est fatigant.
Certains ont espéré avoir un train, d'autres se sont organisés. Les usagers face à la grève, deuxième journée. On sera gare Saint-Lazare à Paris dans un instant.
Et au lendemain d'une forte mobilisation dans l'éducation nationale, incertitude pour les parents. Les écoles vont-elles rouvrir ? Il faudra sans doute se rendre sur place ce matin pour le savoir.
Les syndicats vont maintenant préparer la suite. 800 000 personnes dans les rues. Succès ou pas ? On posera la question à notre invité, le sociologue Jean-François Amadieu.
Dans ce journal aussi, l'hommage aujourd'hui à Nîmes aux 3 secouristes morts sur le front des inondations dans le sud-est en présence des élus des communes sinistrées.
Ce sont des héros, des gens qui se sont sacrifiés pour les autres, des gens qui méritent réellement une reconnaissance du fond du cœur. Là.
Emmanuel Macron sera présent.
Et puis c'est notre fil rouge de la semaine à l'occasion de la COP25. Le réchauffement climatique illustré 5 jours dans 5 continents différents. Dernière étape ce matin dans les Alpes, où le réchauffement climatique menace la stabilité des montagnes.
Il peut y avoir des pans entiers de montagnes qui s'effondrent et un jour une montagne est en bonne condition et le lendemain on ne peut plus la pratiquer.
Europe 1, 7h01, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Aujourd'hui, presque comme hier, 10% de TGV en circulation, 30% des TER assurés en grande partie par des bus, de rares intercités transiliens. La grève à la SNCF se poursuit et les usagers, semble-t-il, l'avaient prévu.
C'est ce que vous constatez à la gare Saint-Lazare, à Paris, Carole Ferry.
D'ailleurs, c'est assez calme. Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, me disait un habitué. Il faut dire en effet qu'il y a beaucoup moins de trains que d'habitude. Alors vous avez les chanceux, bien organisés. Ils ont pu prendre la ligne 1 ou la 14 automatisés, ils ont bien vérifié avant l'horaire des trains maintenus et ils partent travailler. Mais vous en avez aussi beaucoup qui galèrent, même quand ils se sont levés très tôt, comme Alexandre, il est chef de projet à Mantes-la-Jolie.
Alors d'habitude, moi je prends la ligne 2, la ligne 13, et ensuite je prends un train de banlieue jusqu'à Mantes-la-Jolie. Aujourd'hui, aucun métro sur mes deux lignes habituelles. Donc j'ai pris un Uber, ça m'a coûté 12 €. Je suis ici, j'attends le train et le train n'est toujours pas là. Là, je viens de voir à l'instant qu'il est supprimé. Il y avait un train qui était prévu à 6h22 et il vient d'être supprimé.
C'est pas une bonne nouvelle, là.
C'est fatigant.
Alors, plus dur encore, ce monsieur arrivait à 5h30 pour être sûr de ne pas rater l'examen de fin de formation qu'il doit passer ce matin. Mais voilà, le seul train maintenu ne lui permettra pas d'être à l'heure. Et pourtant, ce matin, vous sentez assez peu de colère, beaucoup, en revanche, de résignation pesante.
Carole Ferry en direct de la gare Saint-Lazare pour Europe 1 et du côté des routes. Ce matin, c'est beaucoup plus chargé qu'hier en Île-de-France. Plus de 200 km de bouchons à l'heure actuelle. Exceptionnel pour cette heure-ci.
Voilà pour les transports. Autre volet de cette grève, évidemment, l'éducation nationale. Pour les parents d'élèves, l'incertitude est total.
Plus de 40% de grévistes hier dans l'éducation nationale, mais impossible aujourd'hui de dire combien resteront mobilisés. Certains parents risquent donc de découvrir seulement tout à l'heure que l'école est fermée. Pour Europe 1, Virginie Riva.
C'est le grand flou pour la journée d'aujourd'hui dans les écoles. Le ministère de l'Éducation nationale n'était pas en capacité hier soir de donner des prévisions, ni même des tendances. Pareil dans la plupart des académies, sauf à Paris, où là, le rectorat parle de 155 écoles avec plus de 25% de grévistes, et donc des écoles potentiellement fermées. Mais côté mairie, on n'a pas les mêmes informations, on parle de 200 écoles fermées. La plupart des syndicats dans le primaire, comme dans le secondaire, n'appellent pas à la reconduction, mais soutiennent les grévistes partout où il y en aura. Pour eux, aujourd'hui, la mobilisation sera de toute façon de moindre ampleur. Alors, pourquoi cette difficulté à avoir des chiffres précis ? Parce que dans le primaire, les grévistes qui ont déposé un préavis illimité n'ont aucune obligation de déclarer s'ils reconduisent leur grève ou non. Impossible de savoir s'ils viennent travailler ce matin. Dans le secondaire, impossible également à savoir, car les enseignants grévistes, là, n'ont pas d'obligation de se déclarer. Concernant la suite du mouvement, la semaine prochaine, une intersyndicale se réunit ce matin à 9h pour en parler et la piste d'une nouvelle journée de mobilisation le 10 décembre sera en discussion.
Les explications ce matin de Virginie Riva pour Europe 1. Notez bien qu'à 7h40, j'appelle un directeur d'école, une école primaire à Paris. On va voir si à 7h40, il est capable de dire si son école ouvrira ses portes ou non ce matin, c'est la question.
Intersyndicale donc, tout à l'heure, les syndicats veulent capitaliser après les défilés d'hier, au moins 800 000 manifestants dans toute la France. Ça commence bien pour Nicolas, salarié de la SNCF, qui manifestait hier à Paris.
Le fait de voir autant de secteurs différents mobilisés ensemble et faire une mobilisation commune, c'est encourageant pour la suite, moi je pense. Que ce soit les transports, que ce soit l'éducation, les hôpitaux ou autres, je pense pas qu'ils pourront gagner seuls. Il faut absolument qu'on reste tous très impliqués dans la grève, dans les manifestations. Et même si ça embête bon nombre de Français, forcément, ce n'est pas le but qu'on recherche, mais le but, c'est que le gouvernement y réagisse. Ouais.
Bonjour Jean-François Amadieu.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. Une manifestation encourageante, selon ce salarié de la SNCF qu'on vient d'entendre. Vous confirmez, on peut parler de succès pour les syndicats ?
Oui, en fait, sur les manifestations, c'était pas l'enjeu principal. Il y avait du monde. On a connu beaucoup de manifestations organisées par les syndicats où il y avait plus de monde aussi. Donc, effectivement, le succès, il est plutôt dans le fait que ça a été calme. Finalement, les Black Blocs n'ont pas causé trop de perturbations. Donc, je dirais que là, c'est plutôt, de ce point de vue, un succès.
La suite, elle va se jouer sur quoi ? Sur la capacité à durer ? Sur la capacité à mobiliser le secteur privé ?
L'enjeu, c'est surtout l'unité syndicale. Tout va se jouer lorsqu'il y aura des annonces le 9 lundi, surtout lorsqu'il y aura peut-être des lignes qui vont bouger, des annonces un peu claires par l'exécutif. L'idée, c'est que l'UNSA, en particulier dans les transports, qui est une organisation très importante, obtienne des concessions significatives pour pouvoir arrêter. Ça joue sur ça. S'il y a une unité syndicale, compte tenu du taux de participation historiquement très élevé qu'on a eu hier, la journée de mardi risque d'être catastrophique et on n'en sortira pas. Donc ça joue vraiment sur ça.
Je note. Merci beaucoup hein, Jean-François Amadieu pour cette analyse en direct. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des mouvements sociaux. On va suivre l'unité syndicale lundi. C'est ce qui comptera évidemment. Le gouvernement de son côté affiche sa sérénité tout en se disant ouvert aux discussions.
Europe 1.
Votre journal se poursuit dans quelques toutes petites secondes avec le pétrole plus fort que les smartphones. La compagnie pétrolière saoudienne Aramco vient de réaliser la plus importante introduction en bourse de l'histoire. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h08, la suite du journal. Marion Calais, Mathieu Béliard.
Ils sont morts en mission et comme pour les soldats tombés au Mali, Emmanuel Macron va leur rendre hommage.
Ces trois secouristes de la sécurité civile sont morts dans le crash de leur hélicoptère le week-end dernier alors qu'ils multipliaient les opérations dans les zones inondées du Sud-Est. Ils se sont comportés en héros pour le maire de Pertuis, dans le Vaucluse, où ils étaient intervenus peu avant l'accident.
Ce sont des héros. Des gens qui se sont sacrifiés pour les autres. Des gens qui méritent réellement une reconnaissance du fond du cœur. Si on n'avait pas eu l'hélicoptère malheureusement qui s'est crashé, on avait trois décès, trois victimes. Hein, puis il y avait 3 mètres d'eau. Hein. Ils leur doivent la vie. Hein. Dans la difficulté, dans la souffrance, ce qui est cette solidarité, et on est tous à se rendre compte que ils ont été formidables. Là.
Roger Pellinck, maire de Pertuis, avec Nathalie Chevance. Au total, près de 200 maires des communes sinistrées ont été invités à assister à cette cérémonie sur la base de la sécurité civile de Nîmes-Garons. Deux rendez-vous judiciaires aujourd'hui. D'abord, le verdict dans le procès du meurtre d'Élodie Kulik. Et puis, la convocation de François Bayrou en vue d'une possible mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen.
C'est un âge qui n'est pas encore révolu, celui du pétrole. Et au moment même où se tient la COP25 à Madrid, c'est l'Arabie Saoudite qui veut en faire la démonstration.
Sur Europe 1, l'éclairage éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Nicolas Barret.
Bonjour Marion.
Alors Riyad a introduit hier en bourse sa compagnie pétrolière Aramco, qui est aussitôt devenue l'entreprise cotée la plus chère de l'histoire.
Oui, devant Google, Apple, Alibaba, etc. Aramco valorisé 1700 milliards de dollars, l'équivalent du PIB du Canada, c'est évidemment énorme. Il faut dire, Aramco, c'est le sous-sol d'Arabie Saoudite, produit 10 millions de barils de pétrole par jour, 10% de la production mondiale. Alors, il faut savoir quand même que la fine fleur de la finance internationale planchait depuis 4 ans sur cette introduction en bourse géante. Et puis, à la dernière minute, Riyad a congédié comme ça tous ses banquiers. Leur crime de lèse-majesté, ils avaient estimé qu'Aramco, en fait, valait moins. C'était évidemment insupportable pour le royaume, qui a donc fixé un prix très élevé aux actions de la compagnie. Riyad a vendu 1,5% du capital d'Aramco pour plus de 25 milliards de dollars. À qui ? Eh bien, à des investisseurs locaux, lesquels n'ont pas vraiment eu d'autre choix que de payer le prix fort. Voilà comment on réussit une privatisation au royaume de Mohamed Ben Salman.
Et Aramco ne sera pas non plus coté sur une grande bourse étrangère.
Alors non, Londres a tout fait pour les attirer, quitte à changer même ses règles boursières, mais le Brexit a fait fuir les Saoudiens. New York était exclu parce que des associations de victimes n'attendaient que cela pour attaquer l'Arabie Saoudite devant la justice américaine pour les attentats du 11 septembre 2001. Et puis enfin, l'option Hong Kong qui a été longtemps envisagée usagers s'est éliminée d'elle-même du fait des troubles. Aramco ne sera donc coté que sur la toute petite bourse de Riyad, signe quand même d'un certain isolement du royaume saoudien sur la scène mondiale.
1 700 milliards de dollars,
oui,
donc, pour cette société pétrolière. L'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, en direct tous les matins dans ce journal.
Europe 1. Des énergies fossiles au réchauffement climatique, il n'y a qu'un pas, bien sûr, dans un instant. Nouvelle illustration des conséquences de la hausse des températures. Nous serons dans les Alpes, où les sols sont fragilisés.
7h13 sur Europe 1, le journal se poursuit. Marion Calais, Mathieu Béliard.
Grâce à la rédaction d'Europe 1, à l'occasion de la COP25, on continue d'observer au plus près les effets du changement climatique. Dernière étape aujourd'hui. Dans les Alpes.
Il n'y a pas que les glaciers qui souffrent, il y a aussi les sols qui se réchauffent et qui déstabilisent les remontées mécaniques dans les stations de ski. Bonjour Virginie Selmen.
Bonjour.
Vous êtes allée le constater à Chamonix.
Oui, dans cette station, au pied du Mont Blanc, plusieurs pylônes de la télécabine du Beauchard ont bougé l'hiver dernier, au sommet à 2700 mètres d'altitude, parce que le sol ne gèle plus en permanence. Conséquence, la roche craque ou bouge. Un guide historique de Chamonix, Christophe Boloyan, nous emmène au massif des Grands Montais pour se rendre compte des mouvements du sol.
C'est vraiment les socles des pylônes qui ont tendance à s'affaisser. Et donc l'inclinaison des pylônes et du câble est complètement modifiée. C'est de la mécanique de précision, donc les câbles doivent être dans un alignement parfait. On ne peut pas admettre une modification de cette ampleur-là.
1 million d'euros de travaux ont dû être faits pour consolider la télécabine du Beauchard, planter des tiges de métal à 12 mètres de profondeur, 1 mois de fermeture imprévue en pleine saison de ski. Et ce n'est pas le seul exemple. Entre 5 et 10% des remontées mécaniques seraient touchées, selon les scientifiques qui surveillent le sous-sol alpin en permanence. Parmi eux, il y a Pierre-Alain Duvillard.
On a des cas comme par exemple le télésiège de Rosael à Orel-Val Thorens, où la garde d'arrivée a dû être déplacée et reconstruite 30 mètres en amont du fait de la fonte du permafrost. Mais ce risque, il n'est pas pour les skieurs par exemple, puisque ces infrastructures sont très suivies et dès lors qu'on a un mouvement d'un pylône, l'exploitant le voit directement et dans ce cas, il ferme l'infrastructure. Donc il n'y a pas de risque de télésiège, de télécabine qui pourrait se décrocher en fonctionnement. Quoi.
Pas de risque, mais c'est quand même assez impressionnant,
c'est bon à savoir.
Virginie. Il y a des solutions ?
Alors oui, soit on consolide, comme ce qu'on vient de voir, soit on construit sur pilotis ou bien sur des fondations réglables, comme dans les régions où il y a des séismes. Et ça vaut aussi pour les refuges de haute montagne qui sont fragilisés au-dessus de 2600 mètres. Il y a un exemple très récent qui a particulièrement marqué notre guide Christophe Boloyan.
Il y a un refuge assez emblématique qui s'appelle le bivouac des Périades. C'est un bivouac assez célèbre parce qu'il a été filmé pendant le film Premier de Cordée. Alors ce bivouac, cet été, a manqué de s'effondrer. Tout le sol s'est affaissé, il s'est incliné de manière assez impressionnante. On peut observer d'une année à l'autre ce qui se passe, mais j'ai même envie de dire d'une journée à l'autre, parfois, puisqu'il peut y avoir des pans entiers de montagnes qui s'effondrent. Et un jour, une montagne est en bonne condition et le lendemain, elle est... On ne peut plus la pratiquer. Quand on parle d'éboulement, c'est des blocs de la taille d'une voiture ou d'un semi-remorque.
Voilà, des blocs de la taille d'un semi-remorque qui s'effondrent. Alors bonne nouvelle, hein, ce petit refuge, comme c'est un bijou d'architecture montagnarde, il a été sauvé. Un groupe de guides a mené une expédition pour l'élitreiller avec des sangles, l'emporter un peu plus bas le temps que le sol se stabilise.
Merci Virginie Selmen. Et dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1, demain à 13h, vous reviendrez Virginie au micro de Fabienne Lemoyle sur les coulisses de ce tour du monde des lieux emblématiques du dérèglement climatique qui montre l'urgence à agir. Alors les Alpes où vous étiez, mais on était cette semaine en Jordanie, en Polynésie, au Sénégal, aux États-Unis avec Xavier Yvon. Et puis d'un mot, c'est notre métier d'aller sur le terrain pour vous raconter ce monde qui change, pour le décrire. Mais le Sénégal, la Jordanie, la Polynésie, ça fait assez loin. Et pour ces reportages, dans le cadre de la COP25, simplement sachez que la rédaction d'Europe 1 a pris en charge la compensation carbone des trajets, mais y compris pour votre aller-retour dans les Alpes.
Hein, oui, absolument. 17 kilos.
17 kilos de carbone, de CO2. Merci beaucoup. Merci Marion Calais. C'était le journal de 7h, une nouvelle édition à 7h30, tout à l'heure, avec Hélène Zélani.